Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après avoir fêté avec une grande dignité et un grand faste, hier, la messe de tous les saints, la fête de la Toussaint, l'Église immédiatement nous invite à nous dépouiller avec la sobriété et même la tristesse du noir à célébrer les défunts. C'est-à-dire ceux qui nous ont quittés et dont nous ne savons pas encore quel est leur sort. Alors vous avez bien entendu, les lectures de ce jour nous ont tout dit. Je vais juste les commenter rapidement. Il y a une fin du monde, il y aura la résurrection des corps, et il faut savoir ce qu'est l'état de notre Église maintenant. Ce sont mes trois points. D'abord, il y a une fin du monde. Et oui, pendant un temps, mais nous le savons depuis longtemps, l'escatone, la fin des temps, nous l'attendons depuis toujours. Alors les scientifiques, ils sont toujours un peu en retard, enfin, ils vont finir par nous rattraper. Maintenant, le savent aussi. Certains ont cru pendant un temps que le monde n'aurait pas de fin. Donc en fait, le monde, c'était un peu cette transcendance en soi, ça s'appelle du panthéisme, et puis que le monde se transformera en autre chose, qui se transformera en autre chose, etc. Oui, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés scientifiquement à l'idée que ce monde a une fin, c'est-à-dire qu'il va disparaître. Pourquoi ? Parce que maintenant, on sait qu'il y a eu un commencement et que rien n'est éternel ici-bas. Voilà. Alors ça, nous, on le sait depuis toujours. Ce n'est pas une grosse surprise. La différence, c'est que le scientifique s'arrête là où sa science le mène, c'est-à-dire qu'il se dit, quand ça sera fini, ça sera fini. C'est la fin dans le sens, c'est la fin du film, il n'y a plus rien. Alors nous savons plus, car nous avons un savoir au-delà de la physique, métaphysique. Nous savons que cette fin, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas juste qu'il n'y a plus de film et que c'est fini. C'est que justement, nous allons vers cette fin qui est notre finalité. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est l'inverse, vous voyez. Nous savons que depuis le début, nous avons un but. En fait, les scientifiques le savent un peu aussi. Ils découvrent petit à petit l'ordonnancement du monde et son avancement vers quelque chose. Alors, c'est une très bonne nouvelle, mes bien chers frères. Ce monde a une fin et ce monde a un but. Et nous allons avec, car nous sommes dans le monde, vers ce but. Alors ce but, c'est quoi ? Eh bien, c'est le jugement final. C'est le retour du Christ. Alors là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Quelle joie de pouvoir être enfin jugé en vérité. C'est-à-dire, sans erreur possible. Vraiment, avec bonté, avec justice. Le Seigneur, qui est le Seigneur des vivants et des morts, parce qu'il est le Dieu de la vie, eh bien, il nous fera venir à lui, nous dit saint Jean. Tous ressusciteront. Alors, je ne suis pas là pour vous le cacher, ceux qui ont fait le bien, pour la vie éternelle, ceux qui ont fait le mal, pour une éternité de damnation. Je vous le dis tout de suite, mes bien chers frères, si vous voulez un critère absolu de savoir si quelqu'un a vraiment la foi ou pas, c'est ce point-là. Est-ce qu'il croit qu'il est possible pour une âme qu'elle soit éternellement damnée ? Malheureusement, j'en ai fait l'expérience, beaucoup de savants, même de théologiens, ne le croient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas en la liberté de l'homme et sa libre coopération avec Dieu, c'est-à-dire au fait que je participe à mon salut. Et oui, s'il n'y a pas de damnation éternel possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix possible, que je ne suis qu'une pauvre marionnette que le Seigneur a pris et puis qui va reprendre comme il aura pris des plantes ou des animaux et qui va les recaser dans un bocal. Eh ben non, nous sommes libres et nous sommes ici pour coopérer à notre salut. Et oui, alors il faut le dire. Ce n'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, hein. Si nous nous promenions en montagne et que je vous arrête en vous disant « Attention, il ne faut pas aller là, il y a un trou !» C'est un abîme, tu vas tomber et mourir. Vous ne me diriez pas, oh, monsieur l'abbé, vous êtes méchant, vous m'empêchez de marcher. Mais non, vous me diriez, monsieur l'abbé, merci, heureusement que vous êtes là pour me dire qu'il y a un trou. Eh bien, c'est ce que je vous dis, attention, il y a un trou, et c'est l'abîme éternel. Alors nous avons une âme à sauver. Voilà.
Parce que la mort, c'est la suite du péché. C'est pourquoi saint Paul dit « Nous ne mourrons pas tous ». Saint Paul sait très bien que naturellement, notre corps est voué à la mort. Il n'est pas bête. Mais il sait que la vraie mort, ce n'est pas celle-là. Hein. La vraie mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est d'aller éternellement à son néant. Et nous, ce n'est pas ce à quoi nous sommes promis. Ben, comme tous les hommes, hein, qui le veulent bien et qui vont vers Dieu. L'éternité de la béatitude. Voilà. C'était mon premier point. Il y aura une fin du monde. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Il y aura une apocalypse, une révélation. Alors nous nous réjouissons grandement qu'elle arrive. Voilà. Il y aura ensuite une résurrection des corps. Ah, et oui. Car je le sais, le pape l'a rappelé ce matin, dans la messe qu'il a célébrée, que, comme le dit Job, je sais que mon Sauveur est vivant. Et qu'un jour je me tiendrai debout, avec mes yeux de chair, je verrai Dieu. Voilà notre espérance. C'est ce que saint Paul vient de dire aussi. Hein. Ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Le Seigneur ne nous a pas créés pour nous perdre. Le Seigneur ne nous a pas fait, ne nous a pas donné la vie pour nous la retirer. Il nous a donné la vie pour qu'elle explose, qu'elle jouisse de la vie éternelle. Voilà pourquoi il nous a donné la vie. Et donc, cette vie, elle va s'étendre à tout mon être, y compris mon corps. Dans un instant, je vais célébrer l'absoute, celle qu'on dit sur le corps des morts. Sommes-nous fous, nous les catholiques, qui emmenons des morts jusque dans l'Église, qui les encensons comme on encense ce qui va vers Dieu? Mais non, on n'est pas fous. On sait très bien que la personne que l'on amène ici, au pied de cet autel, est morte. Mais sinon, on ne l'amènerait pas. On sait très bien que ce corps va tomber en poussière. Mais nous savons que ce corps est promis à la vie éternelle. Alors comment ? Ah, ce n'est pas un corps matériel immédiat. Hein ? C'est-à-dire que je sais très bien que mes cellules vont tomber en ruine. Ce n'est pas forcément ces cellules-là. Mais numériquement, dit la théologie, c'est bien mon corps. C'est-à-dire quelque chose de moi. C'est ce que nous disons dans le credo. Je crois à la résurrection des corps. Pas seulement à une espèce de survivance spirituelle d'une âme qu'on ne saurait plus trop ce que c'est. Non, c'est mon âme qui ressuscitera dans mon corps. Alors ce corps, évidemment, ce n'est pas celui que j'ai maintenant. C'est quelque chose qui est moi. Parce que vous savez, quand vous étiez grand comme ça, et quand vous êtes maintenant, vous n'êtes pas le même. Ben oui, vous n'êtes pas les mêmes, hein. Si on vous montre une photo d'un nourrisson de 2 jours et puis la photo que vous avez aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître. Hein, un peu peut-être la couleur, c'est une aide. Enfin, c'est pas grand-chose. Hein. Bon. Donc, on ne sera plus le même, on sera différent, ça c'est sûr. C'est pas un corps matériel, c'est un corps spirituel, impassible, c'est-à-dire pas de souffrance, subtil, purement spirituel. Mais réel, hein, ce qui est spirituel est réel. Hein. Agile. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de pesanteur, de lourdeur, clair, c'est-à-dire pas de mal en lui, pas de concupiscence, rien qui attire au péché. Bref, ce corps glorieux dont jouissait notre Seigneur quand il est apparu de si nombreuses fois à ses apôtres. Vous avez remarqué, hein, à chaque fois que le Seigneur apparaît dans l'Évangile, de très très nombreuses fois, on compte plus de 13 apparitions qui sont racontées, mais il y en a sûrement d'autres, hein. Il y en a d'autres puisque c'est même dit, eh bien, d'un seul coup, il est là. C'est un vrai corps. Il y a des trous, il peut manger. Mais en même temps, on ne sait pas comment il est entré. Les portes étaient fermées. Il est apparu. Il n'est pas resté là à vivre. Il était là. Bref, ce corps glorieux de notre Seigneur, et je vous invite à lire l'Évangile et à regarder tout ce temps entre sa résurrection et son ascension, où les apôtres, nos bienheureux pères dans la foi, ont pu voir le corps du Seigneur qui avait quelque chose de cette gloire que nous aurons. Et puis, Pierre, Jacques et Jean ont même vu le corps parfaitement glorifié du Seigneur à la transfiguration. Ils ont vu le corps que nous aurons un jour. Quelle joie de savoir qu'il y aura une fin à ce monde, et quelle joie de savoir que mon corps va ressusciter, qu'avec mes yeux de chair, je verrai Dieu. Mon dernier point est un peu une récapitulation, car il nous faut bien, après les histoires que je viens de vous raconter, qui sont la stricte vérité, il nous faut bien nous situer dans le temps. L'Église est le corps mystique du Christ. Alors, nous sommes dedans. Mais dans ce corps, il y a plusieurs états. Hier, nous avons fêté les saints, ceux qui sont dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons les âmes du purgatoire, ceux qui finissent leur purification. Et nous, nous sommes l'Église militante, nous sommes en train de travailler au salut. Ne croyez pas que c'est étanche, c'est le même corps du Christ. Quand je dessine ça pour des enfants au tableau, c'est important, je leur dessine un Seigneur, un Jésus tout entier, avec la tête déjà au ciel, et puis une période transitoire en quelque sorte, et puis le corps qui est sur terre. Ce corps que vous venez de toucher, de manger, le corps mystique du Christ qui est l'Église. Alors il y a une communication incroyable entre ces trois états de l'Église, entre ces trois corps, enfin ce seul corps, mais c'est notre corps qui change. Les saints, nous les prions pour qu'ils intercèdent pour nous, parce qu'ils voient la gloire de Dieu face à face. Ils jouissent de la béatitude. Alors sans cesse, nous demandons leur intercession, leur prière, leur aide, pour que nous aussi, nous ayons un petit peu les yeux vers le ciel. Et puis, ils intercèdent pour nous, à leur tour, nous prenant en amitié, en raison du prénom que nous avons, simplement, en raison aussi des anges, qui sont dans la gloire de Dieu, qui sont nos gardiens, en raison des prières que nous leur faisons, quand nous prions Saint-Georges, Saint-Antoine, Sainte-Thérèse, eh bien, nous intercédons, nous espérons que leur intercession va être portée auprès de Dieu pour nous. Et puis il y a l'Église souffrante, celle d'aujourd'hui, celle que nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons le fait que certains finissent de se purifier. Quelle chance ! Alors bien sûr, nous sommes en noir, parce que la mort est triste, il y a une séparation. Séparation de l'âme avec le corps, la séparation de ceux qu'on aime avec nous-mêmes. Il y a quelque chose, il ne faut pas faire semblant. On va pas faire comme si c'était joyeux la mort. C'est pas joyeux. C'est un échec, c'est le fruit du péché. Nous n'avons pas été faits pour mourir. Toujours étonné, quand on enterre même une grand-mère de 95 ans, on devrait se dire, bon, ben, c'est bon, 95 ans, ça y est, ça suffit. De toute façon, c'était sûr, on savait qu'on allait mourir. Mais non, on est triste. On est triste parce que la mort est un arrachement. Alors, la tristesse, c'est normal. Notre Saint-Père le Pape a célébré aujourd'hui dans un cimetière la messe, le cimetière de Rome, et il a rappelé que la tristesse faisait partie, les chrétiens aussi sont tristes. C'est pas parce que nous avons l'espérance que nous ne sommes pas tristes. L'espérance, c'est pas pour nous faire comme des espèces de béats idiots, comme si on ne voyait pas les choses. Bien sûr que nous sommes tristes. Mais nous avons l'espérance que même ceux qui sont auprès de Dieu intercèdent pour nous, et que ceux qui sont morts finissent de se purifier, car rien d'impur ne peut tenir devant lui. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Dans une grande souffrance, parce que, imaginez-vous, la souffrance du purgatoire, c'est un peu comme si vous saviez qu'ici, le Seigneur était là et que vous ne pouviez pas le voir, et que vous attendiez ardemment de le voir. Ça serait notre tristesse sur terre si nous avions une foi absolument parfaite et que nous sachions avec certitude que le Seigneur est là. Mais comme on a une foi un petit peu débile, un peu faible, eh bien, parfois on est triste de ne pas encore voir Dieu, parfois on l'oublie un peu. Alors les âmes du purgatoire, elles ne peuvent plus l'oublier, parce qu'elles sont plongées tout à côté de Dieu. Elles attendent avec instance l'amour de leur vie, de le voir maintenant. C'est ça leur souffrance terrible. Alors leur souffrance, elle ne peut plus servir pour eux, parce que leur sort est éternellement fixé. Le jour de leur délivrance est arrêté. Mais ils peuvent intercéder pour nous. Priez les âmes du purgatoire. Faites célébrer des messes. Fréquentez-les, nos bonnes amies, les âmes du purgatoire. J'avais une arrière-grand-mère très pieuse. Quand elle... C'est très important, la foi des grands-mères. Beaucoup de choses reposent sur la foi des grands-mères. Elle prie pour moi, j'en suis sûr. Et je prie pour elle. où qu'elle soit. Et alors, quand elle se réveillait le matin et qu'elle avait rêvé de quelqu'un, qui était en général mort, hein, parce que quand on a 90 ans, tous ceux qu'on connaît sont un peu morts. Hein. Alors elle disait, tiens, j'ai rêvé de celui-ci ou de celle-là. Sûrement, il a besoin d'une messe. Alors elle courait à l'église et elle faisait dire une messe. Hein. La piété chrétienne, c'est ça. On sait qu'on ne peut plus communiquer de la même manière, on ne peut plus se parler, se téléphoner, faire tourner les tables et tout ce genre de sornettes, hein, graves, dangereuses. Mais on peut, dans le Christ, présent ici, sans limite d'espace ni de temps, on peut échanger le bien. On peut prier, on peut offrir tout le mérite du Christ. Enfin, nous qui sommes dans cette église militante, eh bien nous espérons le secours. Le secours des saints, nous les avons priés hier, mais le secours des âmes du purgatoire, cet échange incessant qu'il y a entre eux et nous, nous qui offrons les messes pour leur délivrance, les indulgences plénières, dépêchez-vous, ça va terminer cette année de la miséricorde. Vous savez qu'une indulgence plénière peut être gagnée pour vous ou pour une âme du purgatoire. Alors faites-le tous les jours, si c'est possible. Il y a plus de 7 lieux dans Paris. Je crois qu'il y a 7 lieux dans Paris où on peut gagner l'indulgence plénière. Et faire des œuvres de miséricorde. Alors, condition, c'est ça. Hein, prier pour le pape, communier, recevoir la confession et pratiquer une œuvre de miséricorde. Alors, il y a ici une association pieuse, hein, de fidèles, dont c'est un des buts. Prier pour les défunts, c'est une œuvre de miséricorde. Alors, livrez-vous avec joie à ce travail qui est le nôtre. Vous êtes venus ici pour cela. Nous avons offert la messe. Nous allons terminer en priant pour le repos de tous les morts. Réjouissons-nous de pouvoir agir encore pour ceux que nous aimons, ceux qui nous attendent, ceux qui déjà intercèdent pour nous. Ainsi soit-il.